Sexploration sur RCN. Lucille Bach.
Fatigue, stress, libido à plat et si ton alimentation y était pour quelque chose. Bienvenue dans Sexploration, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle sur ta sexualité. Salut Chloé.
Salut Lucille.
Tu sais qu'on avait parlé lors du premier podcast de la disparité homme-femme sur la libido. Aujourd'hui, on va se poser pour discuter de ce qu'on met dans notre assiette et de l'impact que ça a sur notre corps. Notre libido, elle n'est pas déconnectée de notre hygiène de vie, donc on va reprendre un peu les bases. Toi qui es experte en sexologie, est-ce que tu peux me dire déjà dans un premier temps la définition de la libido ? On va reprendre un petit peu les bases.
Alors la libido, c'est un petit gros mot entre guillemets pour dire simplement envie. L'envie sexuelle, l'envie érotique, ça va vraiment être un gros mélange de « mais j'ai peut-être envie de manger justement autre chose qu'une assiette de pâtes ce soir, mon mari a l'air intéressant
». Et quels sont les facteurs physiologiques qui influencent le désir ?
Physiologique, ça va être la fatigue, ça va être un espace mental qui n'est pas assez important, ça peut être des douleurs dorsales, en fait tout finalement ce qui va intervenir dans l'environnement, qui va, toi, t'embêter, bah, ça va forcément embêter par expansion ta libido.
Et justement, on va continuer dans cette suite. Comment l'énergie vitale, le sommeil ou même le stress, y joue sur l'envie ?
C'est crucial. C'est, j'ai envie de te dire, le checkpoint de ce que tu peux faire, en fait.
On est d'accord.
Ouais, ouais.
Est-ce que la libido, elle a un indicateur de bonne santé ? C'est une question qu'on m'a déjà posée.
Pas du tout. Ça peut donner quand même, dans certaines façons, des pistes, des petits indices sur des choses qui ne pourraient ne pas aller, parce qu'effectivement, quand on n'a pas le moral, on n'a pas forcément aussi envie de libido. Mais on peut très bien se porter, aller très bien, et ne pas avoir cette libido non plus qui existe.
Ça, c'est... Complètement, puis même si on a un peu de sommeil, on peut avoir une libido quand même.
Hein. Bah oui,
je confirme. Est-ce qu'il y a une différence entre la libido et l'excitation en elle-même ?
Oui, parce que la libido, ça peut rester un état imaginaire. On n'est pas obligé d'aller en live action faire quelque chose. On peut juste rester dans le fantasme, dans l'idée, sans forcément passer à la suite. Et l'excitation, là, ça va vraiment être physique. Ça va être quelque chose que tu vas te ressentir, etc. Autant tu peux avoir des idées sexuelles, érotiques dans ta journée sans forcément que ça te provoque une excitation plus que ça finalement.
Oui, ou qu'il y ait une suite finalement à la fin de journée. On peut être éteint de cette idée alors que la journée est en mode genre « Ouais, pump it up ce soir peut-être !»
Et c'est souvent comme ça, on se dit le matin « Allez, ce soir j'ai envie, on envoie quelques sexos, puis finalement on va se coucher et puis on baffe quoi.
Voilà. » Finalement, je reprends l'assiette. Hein.
C'est ça.
Et bien justement, qu'est-ce qui fait que notre corps débranche parfois du désir de façon générale ?
Bah ça va être, faut vraiment, moi j'aime bien prendre cette image en consultation, c'est de voir ton cerveau avec comme un gros panneau de commande. Donc il va y avoir la faim, la soif, la fatigue, les douleurs au niveau du corps, l'espace mental. S'il y a des voyants qui sont rouges, il y a trop de déséquilibre, finalement ça va impacter sur ta réponse sexuelle. Parce que tout simplement, lui, le cerveau prend quelque chose de très bête, c'est de te mettre en sécurité et en recharge le plus rapidement possible. Pour lui, il y a tout ce qui est sexuel, excitation, c'est pas vital, il peut vivre toute sa vie sans, et ça lui pose pas de problème. C'est pas comme un rein qui doit faire fonctionner, etc. Donc s'il y a le moindre déséquilibre dans ce panneau de commande, c'est forcément l'excitation qui va, et la libido qui va prendre tarif tout de suite, quoi.
Est-ce que c'est normal, justement, d'avoir des baisses de libido, mais régulières ?
Régulières, ça dépend, en fait, si ça te pose problème, déjà. Est-ce que tu es en couple ? Enfin, y a plein de facteurs finalement. Est-ce que ça va vraiment poser un problème, ce manque de libido ? Et c'est aussi se dire, mais finalement, libido, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait, entre guillemets, c'est un peu la phrase choc de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce moment de récréation ? Il faut toujours se dire que c'est un moment de récréation, c'est pas une obligation, c'est un plus dans le couple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait nous deux dans notre couple pour mériter ce moment-là de loisir, entre guillemets ?
Et puis, c'est pas se pénaliser ni culpabiliser parce qu'on a une baisse de libido, tout simplement.
Ah oui, non, pas du tout. Hein. Ça fait partie de la vie. Hein.
On est d'accord. Et bien, justement, on va bifurquer enfin sur cette partie de qu'est-ce qu'on met dans notre assiette et qu'est-ce que notre assiette dit de notre désir. Quel type d'aliments, justement, peuvent booster ou même carrément plomber la libido ?
En général, je prends prendre un peu un parallèle rigolo, mais en général, t'as moins envie de faire l'amour après une raclette ou une tartiflette, parce que finalement, t'as des inconforts digestifs, hein, t'as le ventre lourd, c'est pas génial.
T'as plus envie de te rouler par terre, quoi.
Voilà, en plus, il fait 35 degrés aujourd'hui, imagine bien que t'as pas forcément non plus aussi envie de te coller à ton partenaire après un repas qui est colossal. Donc effectivement, ça va vraiment être... finalement tout ce qui est bon pour mon corps de manière générale, donc une bonne hydratation, une alimentation saine. Alors, quand je dis saine, bien sûr qu'on a le droit à des écarts, hein, heureusement, mais il faut toujours se dire que ça va avoir un impact sur tout, sur ma fatigue, sur mon sommeil, etc. Donc ça aura un impact sur ma libido, c'est sûr et certain.
Est-ce qu'il y a des aliments types qui boostent un peu la libido? Parce qu'on en parle souvent, des fruits aphrodisiaques par exemple, ou même d'autres choses, le chocolat, etc.
Effectivement, on voit beaucoup cette vague maintenant de produits. Bon, ça fait longtemps, hein, parce que les premières plantes, etc., c'était le bois bandé par exemple. Effectivement, tu vas avoir certaines plantes, certains aliments qui peuvent avoir un effet aphrodisiaque, mais ce serait en consommation d'une telle quantité que c'est juste pas possible. Donc ça n'a pas vraiment d'effet aphrodisiaque. C'est plutôt dans le contexte que tu vas le prendre. En général, si tu prends un aliment aphrodisiaque, c'est que tu as déjà envie de quelque chose derrière. Donc finalement, ça fait un peu cet effet placebo de ça être quelque chose, mais ça va pas être magique. Carrément.
Ouais, j'allais te dire l'effet placebo, clairement. Quel rôle jouent les hormones dans tout ça?
C'est pareil, ça c'est capital aussi, parce qu'on voit souvent, par exemple, quand tu as des problèmes de thyroïde ou par exemple des problèmes vraiment avec du SOPK, des choses comme ça, enfin, vraiment il y a une corrélation avec les hormones. Ça joue sur tes humeurs, ça régule tes humeurs, ça régule ton sommeil aussi, effectivement. Donc, pareil, ça aura un rôle crucial parce que ça va venir aller embêter un petit peu tous ces chapitres-là. Il suffit qu'en plus de ça, dans tes périodes hormonales, tu as des inconforts digestifs, des problèmes intestinaux, on voit souvent que c'est raccroché, des douleurs, un transit qui se passe mal. Forcément, t'es moins partant ou partante pour aller vers ton partenaire si tu sens qu'il y a un petit pétou qui peut arriver, quoi.
Oui, c'est sûr, t'es moins en joie.
Voilà.
Tu fuis.
C'est ça.
On parlait à l'instant d'effets placebo, d'aliments aphrodisiaques. Est-ce qu'on peut voir ou ressentir une différence immédiate, un changement suite à ce changement alimentaire?
On peut voir quand même des changements significatifs. Par exemple, on va prendre encore une fois le SOPK ou ce genre de choses. Le fait d'avoir des régimes anti-inflammatoires, donc c'est-à-dire que tu vas manger vraiment le moins d'aliments anti-inflammatoires comme de la viande rouge, des choses comme ça, au possible, en tout cas essayer de le réguler au maximum, finalement ça te remet dans une vague où finalement tes inconforts sont beaucoup moins présents, ta fatigue va aller mieux parce que tu te nourris de minéraux, de sel, des choses qui sont vitales pour toi, dans des bonnes quantités, donc finalement ton état général va s'améliorer. Et donc ton espace mental aussi.
Est-ce qu'il y a un lien entre justement cette alimentation inflammatoire et la libido en elle-même?
On peut dire que c'est presque direct, parce qu'effectivement, si tu te sens mieux d'un côté, t'as plus de chances d'aller en récré, entre guillemets, derrière. Mais il y a aussi des personnes où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent au niveau de l'alimentation, etc. Il y aura encore des inconforts, etc. Donc encore une fois, c'est très personnel la façon d'approcher ça. Mais en règle générale, on ne se fait pas de mal à se faire du bien, comme on dit.
En général, oui. Ou alors sinon, c'est que ça fait vraiment du bien dans tous les cas.
Voilà.
Tu parlais à l'instant des régimes, justement. Je vais rebondir sur ça. Est-ce que les régimes restrictifs, ils ont un impact fort ou pas du tout?
Le régime restrictif, en général, de toute façon, maintenant c'est prohibé. Alors, c'est vraiment plus quelque chose qu'on applique. On voit souvent que c'est vraiment un accompagnement de qualité avec une diététicienne, quelqu'un qui est spécialisé dans la nutrition, dans tout ce qui est macronutriments, etc., qui va vraiment avoir un impact. Donc, ça peut être par exemple d'aller voir un endocrinologue pour justement refaire un petit peu ce point sur ce qu'on peut mettre en place, faire des dosages aussi de résistance à l'insuline, c'est des choses qui, on appelle ça les prises de sang OMA, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le corps. C'est vraiment faire un bilan général, mais avec quelqu'un qui n'est pas là justement pour te vendre du rêve en te disant « si tu suis mon régime, tu vas perdre ça ». On voit souvent sur les réseaux sociaux, il y a un peu les régimes miracles, etc., pour n'en citer aucun. Mais c'est vraiment dire, c'est un professionnel de santé qui va m'accompagner et pas juste l'instagrammeuse qui me dit que finalement son petit sachet matinal ou son thé matcha marche, quoi.
Ça va faire l'affaire, oui. Puis chaque corps est différent, donc forcément, il faut mieux vérifier avant. On parlait il y a quelques instants de tout ce qui est impact hormonal. On va rebondir sur ça. va rebondir sur ça simplement parce que là, je voudrais voir un peu sur tout ce qui est cycle hormonaux pour pouvoir manger en conscience. L'alimentation peut-elle accompagner les fluctuations du cycle menstruel ?
Oui. Bah oui, parce que finalement, qu'est-ce que c'est les menstruations ? Ça reste une inflammation. Donc plus tu vas tendre vers des aliments anti-inflammatoires, plus tu ne vas pas remettre entre guillemets, de l'huile sur le feu. Tu vas essayer de calmer cette zone, tu vas essayer de calmer ton transit intestinal. Tu as des femmes qui, justement, avant et pendant et après leurs règles, sont vraiment très, très embêtées sur le plan digestif. Donc, si tu arrives à gérer un petit peu mieux ça, à essayer de te comprendre et t'écouter pour voir qu'est-ce que tu peux mettre en place le mieux, c'est dire, bah voilà, je sais que je vais peut-être pas manger un chou cru à ce moment-là parce que ça va peut-être me faire mal au ventre. Je vais pas non plus manger un steak frites ce soir, je vais peut-être le remplacer par une viande blanche, ce genre de choses. C'est vraiment des choses peut-être un peu toutes bêtes, mais qui vont te mettre vraiment dans un confort qui peut être quand même notable.
Plus optimal en tout cas,
ouais,
pour la suite.
Effectivement.
On parlait aussi de changements hormonaux, donc comment là, par exemple la ménopause ou même l'andropause, elles affectent ce lien entre nutrition et désir ?
Nutrition et désir sur l'andropause ou la ménopause, ça peut avoir des effets sur le confort, encore une fois, du corps, etc. Ça ne va pas forcément régler les humeurs, parce que là c'est autre chose, on est vraiment dans un autre univers, mais ça peut toujours être un plus de se dire, en plus de ça, on surveille l'alimentation, on surveille son hydratation. L'hydratation, c'est super important quand tu passes ce stade-là, parce qu'effectivement, ça joue sur aussi ta lubrification naturelle, sur la réponse de ton corps, etc. Donc forcément, ça va être beaucoup mieux. Les bouffées de chaleur, etc., autant boire beaucoup d'eau, essayer d'avoir le moins de pertes de sudation possible.
Est-ce qu'une alimentation adaptée, ben justement, on en parlait à l'instant, de sécheresse, etc., peut limiter la sécheresse vaginale, la fatigue, la perte d'érection, tous ces petits éléments qui ont tendance souvent à nous prendre la tête, si je peux dire ?
Ben de toute façon, tout ce qui est régime gras, etc., encore une fois, je ne suis pas experte sur le sujet, mais sur mes propres bases et mes connaissances, tout ce qui va être régime gras, etc., plus on avance dans le temps, plus ça va être dangereux pour nous. C'est-à-dire que ça peut boucher des circuits, etc., voilà, etc. Donc c'est se dire, si ça bouge les circuits, bah finalement, qu'est-ce que c'est l'érection ? Ça reste un circuit veineux qui doit fonctionner correctement. Donc si on a ces alimentations qui sont là, c'est un risque. Sur tout ce qui va être ménopause, par exemple, sur les bouffées de chaleur, sur le ressentiment qu'on a de son corps, etc., le fait d'avoir des alimentations un peu plus saines, où on vérifie que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour nous et qui va être nutritif, bah finalement, c'est pareil. Plus on s'enlève du gras, entre guillemets, de son alimentation, et encore quand je dis du gras, c'est du mauvais gras. Hein.
C'est-à-dire des choses qui ne sont pas saines pour nous.
Voilà, exactement. Si on s'enlève un petit peu tout ça, mais finalement, c'est des épines dans le pied, dans notre confort, parce qu'effectivement, c'est aussi pouvoir supporter son ventre. Le ventre, c'est quand même un petit peu totem chez une femme aussi. Le fait qu'il soit lourd, qu'il puisse, on appelle ça les tabliers, tu sais, quand le ventre part un petit peu au-dessus, par exemple, du sous-vêtement, etc. C'est des choses qui, finalement, engendrent plus de douleur, plus d'inconfort aussi. Donc, c'est des choses qu'on va essayer de calmer. Et de toute façon, tout ce qui est mauvaise graisse et mauvaise alimentation, c'est vraiment tout ce qui va accélérer nos problèmes de santé.
Est-ce que, justement, il y a des nutriments clés pour soutenir les cycles hormonaux ?
Les nutriments clés, ça aide beaucoup du légume, etc. Mais encore une fois, ça a à voir avec un professionnel de santé, parce qu'il y en a qui te recommanderont plus du cru quand d'autres vont te recommander justement plutôt du cuit. Éviter certaines crudités, etc. parce que ça peut avoir un effet justement à contre-courant de ce qu'il faudrait faire. Ça va être éviter forcément les viandes rouges le soir, plutôt les privilégier dans la journée. C'est tout un travail sur son alimentation à faire, et écouter sa faim aussi.
Oui.
Ne pas avoir ses envies de grignotage parce que on s'ennuie un peu. Comme quelqu'un qui fumerait 3 clopes d'affilée, finalement, parce que il s'ennuie un peu, quelqu'un, lui qui fume pas, il va se dire je vais prendre ce petit paquet de M&M's, c'est tout ça. Il a l'air de rien, il est réconfortant, et il faut continuer à le faire. Moi, je suis pas là pour dire, je suis pas nutritionniste et je suis pas quelqu'un pour les régimes, etc. Faut savoir se faire plaisir dans tout, mais de façon raisonner pour soi.
Et pour que ce soit en concordance avec notre propre organisme, en fait, simplement aussi faire le fameux suivi avec la nutritionniste, mais simplement, et faites un bilan, en fait. Si vous voulez savoir ce qu'il en est, faites un bilan, faites un suivi, et là, en fait, ce sera en concordance avec votre propre corps.
Et on n'a pas besoin d'être en surpoids ou en sous-poids pour avoir ces accompagnements-là. C'est-à-dire qu'on peut être se dire qu'on est en très bonne santé, mais finalement, vouloir aller encore mieux dans tout ça, prévenir justement l'âge qui avance, en se disant, tiens, là, je fais un peu un check-up, je regarde ce qui doit être mis en place. Est-ce que en plus, à côté de ça, c'est pas le moment de faire son dépistage? Enfin, c'est vraiment faire ce moment un peu point dans sa vie en disant, bah là, je m'enlève tout ce qui est possible comme petit souci qui pourrait arriver. Au moins, j'ai mis tout en place pour moi, quoi.
Est-ce que tu penses que on peut ajuster son alimentation en fonction des phases par rapport à l'évolution, ses règles, etc.?
Oui, je pense qu'il faut s'écouter. C'est-à-dire que si on a beaucoup plus faim pendant son moment crucial, on va dire, du cycle, eh ben, il ne faut pas culpabiliser non plus. C'est-à-dire que ça reste des conforts, ça reste des réconforts. Bah, au bout d'un moment, si on a sauté sur le magnum à 3h du matin, bon, bah, on ne va pas en faire une tinette, ça nous a fait du bien. Ça nous a rafraîchi en plus par les chaleurs qu'il fait en ce moment et c'est pas grave. C'est pas ce que tu vas faire de façon ponctuelle qui va être important, c'est ce que tu vas mettre sur le long terme. Donc même si pendant un week-end t'as abusé de ouf, c'est pas très grave.
Est-ce qu'on peut allier alimentation et plantes, tu sais, avec tout ce qui est phytothérapie pour, on va dire, booster, soutenir la libido, qu'importe. Que... Je crois que par un moment, on m'avait parlé de tout ce qui est guarana, quelque chose comme ça, la plante là, et en fait, ça boostait la libido. C'était des compléments, en fait, phyto...
Alors, de mon avis, ce genre de choses, comme la guarana, ce genre de choses, ça reste finalement des choses que même les sportifs utilisent. C'est-à-dire que c'est finalement un effet un peu coup de fouet. Sauf que bah, le coup de fouet, c'est quoi? Ça va être un peu comme un Red Bull, finalement, ça va accélérer ton rythme cardiaque. Donc c'est là qu'on fait la corrélation en disant bah, rythme cardiaque, finalement le sang qui pulse, bah, forcément une érection qui va être de meilleure qualité. Bah, non, c'est là qu'on se trompe parce qu'encore une fois, on attend une réponse physique du plaisir, du désir et de l'excitation, alors que c'est mental qu'il faut l'attendre.
C'est ça, faut que ça se concorde ensemble.
Ça, ouais.
Maintenant, on va écouter Allons voir de Feu Chatterton. On se retrouve dans quelques minutes.
Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Prends-moi la main.
Sexploration sur RCN.
Précédemment, Chloé, tu nous expliquais que manger en conscience pouvait largement influencer l'impact sur notre libido. Est-ce que tu peux me dire comment notre rapport à notre corps et à la nourriture, forcément, influence notre désir aujourd'hui ?
Ça aide beaucoup la confiance en soi, se sentir bien aussi, en confort dans son corps. Ça peut être bête, mais par exemple, le fait de te mettre sur le ventre dans le lit, est-ce que ça va être confortable pour toi ? C'est des petites choses qui ont l'air de rien, mais finalement qui impactent aussi. C'est-à-dire que tu vas te sentir inconfortable, donc tu vas pas forcément faire les positions que t'aimes bien, des choses comme ça. Tu vas essayer de te mettre un petit peu de côté en disant « Ouais, mais là, je sais que j'avais eu mal, là, c'était inconfortable, puis là, ça m'appuie là, puis... » Finalement, c'est pas cool pour soi. Et puis après, c'est aussi pour son image de soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir un corps voilà, avec des formes, etc., se sentir très bien, avoir l'inverse, un corps qui, pour nous, serait dans les standards de beauté et pourtant ne pas se sentir bien. C'est vraiment propre à chaque personne. Et c'est juste se dire, il faut que je me fasse du bien dans tout. C'est vraiment s'écouter et essayer d'être accompagné, quoi.
Est-ce qu'on peut retrouver sa confiance en soi via une alimentation plus dite intuitive ?
Bah, disons que le fait que tu agisses sur ton alimentation, c'est aussi des fois une part de fierté en te disant voilà, là je sais que intérieurement je donne des bonnes choses à son corps, c'est prendre soin de soi. Et le soin de soi, c'est ce qui va faire aussi que c'est la fabrique aussi un peu du bien-être intérieur et après forcément du bien-être en général.
Est-ce que pour toi, le plaisir culinaire, il peut être lié au plaisir sexuel ?
Pour moi, la bouffe est érotique.
On est d'accord, la bouffe, c'est la bouffe.
C'est, au contraire, je pense qu'on peut faire des énormes parallèles. J'avais une collègue qui était dans ma classe, Marion Nico, qui avait fait justement tout un podcast à ce sujet avec mon ancien prof, mon mentor. Vraiment axé sur cette alimentation et tout l'érotisme finalement qui pouvait s'en dégager. Et j'avais trouvé ça super intéressant parce qu'effectivement, c'est des moments que tu peux partager en couple, la préparation du repas. Mmh. C'est souvent très sacralisé dans les films d'amour, etc. On voit un petit peu, par exemple, dans certains Disney, les spaghettis, voilà, où ouais. le bisou arrive, etc. C'est simplement pour dire que c'est des moments qu'on peut partager en couple et c'est pareil, on sert de l'olfactif, on sert de la bouche, on se sert de plein de choses qui finalement est très intime et personnelle. Qu'on partage avec quelqu'un. Donc finalement, si on portait un regard un petit peu coquin à tout ça, ça peut vraiment être un bon démarreur.
Oui, il y a une sensualité simplement qui se retranscrit dans tout ça.
Et puis la beauté de l'assiette, par exemple, ce script un petit peu d'assiette que tu fais, cette créativité, bah, finalement, c'est ce que tu peux essayer de faire glisser un petit peu au lit.
Est-ce que pour toi, la culpabilité ou même la restriction, elle impacte le lâcher prise ? On parle toujours dans notre assiette, hein, mais même de façon générale, est-ce que la question peut se poser ?
Bah effectivement, quand tu, dans ta vie en général, tu es trop carré, ou tu te fixes beaucoup de limites, ou tu sais qu'à telle heure tu feras ça, puis à telle heure, etc., il peut y avoir une réponse un peu, je dirais pas négative, que j'aime pas ce mot-là, mais en soi, ça peut forcément avoir un impact parce que, comme tu le disais très bien, la sexualité, c'est de la spontanéité, c'est du lâcher-prise. Donc s'il n'y a pas de spontanéité déjà naturelle dans ton quotidien, bah, tu ne vas pas l'inventer au bout d'un moment dans ta journée quand tu as envie. Quoi.
Oui, bah oui, c'est sûr que bah, tout ce qui est programmation, dans le calendrier, tu mets une petite croix, là, on va faire ça. Je sais que ça peut se poser hein, pour les couples, notamment qui ont des enfants, etc., où on se dit bon, comment on va faire pour... Parce qu'on aimerait bien garder avoir une vie sexuelle à côté, mais bon, ça peut aussi impacter sur justement le plaisir ouais, à côté. Quoi.
C'est ça, c'est-à-dire
que c'est absente.
Oui, c'est cette petite croix, effectivement, que tu dis dans le calendrier. Dit de but en blanc comme ça, effectivement, ça donne pas envie parce qu'on se dit bon bah allez mardi là, mais finalement c'est dire mardi là on a mis une croix dans le calendrier, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on se retrouve effectivement bêtement devant le lit sans rien, ou on se dit bah tiens, on prend un moment pour nous, mais à la maison ou à l'extérieur, on reste pas dans la chambre à coucher, on va à l'hôtel, enfin j'extrapole totalement, oui. Mais finalement c'est un petit peu la mise en scène que tu vas faire de cette petite croix dans le calendrier qui est importante.
Oui, complètement. Et puis, ce n'est pas forcément sur l'instant T. On peut un peu se teaser un peu avant pour stimuler, etc. Donc, ce n'est pas forcément si négatif que ça.
Non.
Je voulais savoir, est-ce que l'alimentation émotionnelle, elle peut brouiller les signaux du désir ?
Alors, tu peux un peu...
Est-ce que, bah, on parlait un petit peu de tout ce qui est alimentation qui nous stimule par les sens, etc. Est-ce que certains aliments vont... nous stimuler et nous dire « vas-y, on a peut-être envie sur l'instant T », alors que ça se trouve, c'est peut-être des faux signaux.
Ouais, ça, c'est encore une fois super personnel, le rapport que tu as déjà avec la nourriture. Il y en a pour qui c'est compliqué, pour qui, effectivement, ils s'alimentent juste par nécessité. D'autres qui prennent plaisir à l'alimentation, ça va déjà être un peu comment je vois ça? Est-ce que je, vulgairement, je bouffe sans faire attention? Est-ce que, par contre, je suis du genre à mettre le petit brin de persil quand j'ai fini mes pâtes carbo et j'utilise pas de crème, que sacrilège? Enfin, finalement, c'est quelle intention déjà je mets dans le geste dans la cuisine? Comment je me comporte face à cette nourriture-là? Et finalement, effectivement, en rallongement, c'est les comportements qu'on a aussi au lit. C'est la gourmandise, par exemple, bah, c'est un des sept péchés capitaux, c'est pas pour rien. Ça veut bien dire que la gourmandise, c'est aussi la gourmandise en général. Si on est gourmand dans l'assiette, il y a plus de chances qu'on soit gourmand ailleurs.
Est-ce que on peut prendre soin de son corps tout autant pour l'allier à une façon de nourrir sa libido?
Donc, prendre soin de son corps, effectivement, c'est de la nourriture de libido. C'est-à-dire que le fait de s'autoriser ce coiffeur, le fait de s'autoriser ce massage qu'on a eu tant envie et qui, on sait, n'est pas forcément dans le budget, mais qui va vraiment nous faire du bien. Effectivement, c'est tous ces moments-là qui vont se dire « Ouais, ça m'a fait du bien. En plus, on se sent toujours assez bien. Bon, sauf si le coiffeur nous a loupé. Mais en général, quand on est contente de notre coupe, etc., bah, on est les premières à aller voir notre chérie ou notre amoureuse en disant « T'as vu, changer de coupe ?» Et puis ça nous fait un peu un power sur le moment où on se dit « bah tiens, je suis beau, je suis belle, je m'aime bien. » Puis là, je me sens relaxée, je me sens bien. Bah, finalement, si on se sent dans tous ces états positifs, ça va forcément avoir un impact derrière, quoi.
Est-ce qu'on peut parler d'une écologie du désir? Je sais que c'est un terme qui est déjà ressorti.
Donc, tu parles... comment tu penses, toi, cette information de
Alors,
l'écologie?
Moi, c'est la première fois que je t'avoue que je l'entends. Donc, si toi, tu avais déjà eu des infos sur ça, moi, je suis preneuse. Mais sinon, c'est pas quelque chose que moi, j'ai déjà eu en réflexion.
D'accord. C'est vrai que bah, quand tu me dis, moi, c'est pareil, c'est pas forcément des termes que j'ai entendus. Mais écologie du désir, moi, ça me fait un peu penser à un peu la microsphère. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde, finalement, de l'érotique? Eh ben, c'est justement être spontané pour moi. C'est vraiment la spontanéité, le temps de qualité ensemble ou même toute seule. Mais se dire finalement, plus je me fais du bien dans ma vie, plus je suis contente de ce que je fais, plus mon rapport, de toute façon, que ce soit à la nourriture, au sexe ou autre, seront beaucoup plus sains. Et finalement, bah, par extension, je me sens mieux dans beaucoup de domaines.
Il y a quelques instants, tu parlais de prendre un peu en conscience, d'apprécier les repas, de les préparer avec sa partenaire, un peu ritualiser le plaisir simplement au lit comme à table pour le coup. Est-ce que mettre autant d'attention dans l'assiette que dans les préliminaires, ça peut justement booster?
Alors ça peut booster et ça peut aussi donner des fois des rythmes qui sont... On parle souvent de santé sexuelle du couple avec les rythmes. Ça, on le met à la poubelle. Et c'est simplement se dire, mais finalement, on a... et du plaisir un petit peu tout le temps, sa semaine, dans sa journée, bah on a peut-être moins besoin en fréquence de sexe, mais par contre, quand on se laisse aller à vos sexes, c'est pour quelque chose de qualitatif. C'est juste pas on regarde le plafond, on crie trois fois et on attend que ça se passe. Là, on sait qu'on veut vraiment être dans ce moment-là parce qu'on l'a choisi et on désire ce moment-là.
On parlait il y a quelques instants de cuisiner ensemble. Est-ce que ça peut être un jeu érotique, justement?
Bien sûr. C'est ces moments-là où, effectivement... on essaie d'avoir des jeux avec l'olfactif, avoir le goût, l'odorat. Enfin, tout est important finalement. Et c'est ces moments-là où on se dit, bah tiens, on voit un film, je sais plus c'est lequel. J'ai cette scène où elle est devant le frigo et qu'elle fait tomber du miel dans sa bouche. Après, elle mange des fraises et puis finalement, lui, il la rejoint. Et finalement, le matin, ils sont éclatés devant le frigo. Il y a tout qui est par terre. Enfin, mais ça a été des jeux assez 9 semaines et demie, le film. Et c'est vraiment des jeux érotiques où on est justement dans le plaisir, le froid, le chaud, les sensations. Et finalement, ça reste que ça, le jeu érotique. C'est des sensations. Et c'est là qu'on rejoint un peu l'idée générale de... finalement, le sexe n'a pas besoin de pénétration puisque ça reste une émotion. La pénétration doit rester accessoire.
Est-ce que pour toi, on peut utiliser certains aliments dans les jeux sensuels?
Oui, bah après ça c'est vraiment...
propre à soi en fait.
Ouais, c'est un peu à l'imaginaire de chacun. Moi je pourrais dire bêtement des fraises, des choses comme ça, quand d'autres te sortiront des branches de céleri pour en avoir un fouet. Enfin, c'est vraiment très libre finalement.
Prends le poireau.
C'est ça, mais c'est un univers qui doit être libre et qui vraiment, moi je tiens à dire ça tout le temps, c'est faites ce que vous voulez. Le seul prérogatif que vous avez respecté, c'est ce que je veux moi. Le consentement, la légalité. Le reste, faites-vous plaisir avec vos poireaux.
Bon, en tout cas, merci Chloé pour ce bel échange encore une fois. Le prochain sujet est à découvrir sur Instagram, Sexploration by Lucille. Si ça t'a plu, si cet épisode t'a fait vibrer, partage-le, note-le, parle-en. On se retrouve chaque jeudi pour casser la routine avec Sexploration. Bisous, bisous.
Bisous.